Bonsoir. Dans sa dernière évaluation publiée la semaine dernière, le Fonds monétaire international, l'FMI à sigle, révèle que la RDC excelle en matière de croissance, mais reste à la traîne sur le front de la réduction de la pauvreté. Selon le FMI, la RDC présente le visage paradoxal d'un pays immensement riche en ressources naturelles, où la pauvreté est généralisée. Comment analyser cette évaluation du FMI? Nous en parlons avec Jean-Marie Bamporiki, le député national et le cadre de l'UNC, parti de l'opposition. Bonsoir, honorable Jean-Marie Bamporiki.
Bonsoir.
Israël Moutala, journaliste, il est aussi analyste politique et économique. Bonsoir, monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Et lui va nous rejoindre, c'est le professeur Godefroy Kabengele, il est professeur à l'université de Kinshasa, spécialiste en économie internationale. Il est cadre du PPRD, parti de la majorité présidentielle. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Dans sa dernière évaluation économique annuelle, le Fonds monétaire international indique que la RDC excelle en matière de croissance, mais reste à la traîne sur le front de la réduction de la pauvreté. Les détails avec Kéline Kouté.
Le dernier rapport du Fonds monétaire international sur l'état de l'économie congolaise divulgué la semaine dernière relève que, selon les autorités de Kinshasa, le produit intérieur brut par habitant de la RDC a doublé entre 2005 et 2012, mais qu'il reste faible et que le taux des personnes vivant sous le seuil de pauvreté absolue, 1,25$ par jour et par personne, n'a baissé que de 5 points dans le même temps pour s'établir à 82%. C'est l'un des taux de pauvreté parmi les plus élevés au monde. Le Fonds monétaire international exhorte les autorités congolaises à lutter davantage contre la pauvreté généralisée qui persiste en RDC en dépit de la forte croissance économique que connaît ce pays. La dernière évaluation économique annuelle du FMI montre que si le taux de croissance pour 2014 s'est établi à pas moins de 9,2%, le taux de pauvreté en RDC figure toujours parmi les plus élevés au monde. Le conseil d'administration du FMI a félicité les autorités congolaises pour leur politique macroéconomique prudente ayant permis une croissance économique robuste, indique un compte-rendu d'une réunion de l'instance dirigeante du FMI consacrée à la RDC. Néanmoins, la pauvreté et le chômage restent élevés et des efforts plus soutenus sont nécessaires pour diversifier l'économie, promouvoir une croissance économique mieux partagée et améliorer les indicateurs sociaux, ajoute le texte.
Merci Kéline Kouté. Jean-Marie Bamporik, je rappelle que vous êtes député national, cadre de l'UNC, parti de l'opposition. La RDC, pays riche, à la population trop pauvre, comment vous analysez cette évaluation du FMI?
Merci pour la question. Vous savez, Guy Maté, quand on connaît le sérieux d'une institution comme le Fonds monétaire international en matière d'analyse économique, on ne peut se dire que c'est de l'anathème jeté sur le pouvoir en RDC. Parce que l'objectif de tout pouvoir, c'est le bien-être social de sa population. C'est-à-dire quoi? C'est la ponction sur les richesses réalisées sur le territoire national pour une répartition par les circuits économiques et sociaux. Pratique. En vue de combattre la pauvreté principalement. Alors, quand nous avons sur le territoire des richesses avérées et une pauvreté qui ne fait que s'accroître, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'État.
Et à quoi peut-on attribuer ce paradoxe? Un pays très riche, la population trop pauvre, est-ce que ça peut être lié au déficit d'une véritable politique de répartition équitable de ces richesses?
C'est l'échec de la gouvernance. C'est-à-dire que le pays, l'État n'est pas gouverné. Quoi. Parce que la gouvernance, c'est effectivement c'est de poursuivre l'objectif d'atteindre le bien-être social, comme je l'ai dit, de combattre la pauvreté en utilisant les richesses réalisées sur le territoire national. Alors, quand il y a des richesses qui sont réalisées et que sur le territoire, il ne reste que la pauvreté, Ça veut dire qu'il n'y a aucun pouvoir qui défend la population.
Vous parlez de l'échec de la gouvernance. Il y a des experts qui expliquent cette situation au travail qui est souvent fait en amont par les partenaires, en fait, des gouvernements ainsi que ses partenaires classiques. La plupart des contrats qui lient la RDC aux multinationales sont considérés comme étant des contrats léonais. Et donc, toutes les richesses produites à travers ces quelques investissements sont rapatriés dans les pays d'origine de ces multinationales. Et ne faut-il pas commencer par là, hein, lorsque l'on négocie les contrats avec ces différents partenaires?
Mais justement, quand nous-mêmes nous plaignons des contrats léonais, mais où est-ce que nous mettons notre système judiciaire? Où est-ce que nous mettons la justice? Nous l'avons, non? Il peut examiner les contrats et en tirer des conséquences. Où est-ce que nous mettons des institutions comme le Parlement, qui a comme mission de contrôler le gouvernement? Le Parlement peut très bien examiner les contrats et conclure qu'il s'agit des contrats léonais, en tirer les conséquences.
Voilà, vous évoquez le Parlement, vous-même vous êtes parlementaire. Et c'est une situation qui est connue depuis plusieurs années, qui est dénoncée depuis plusieurs années. Et quelles sont les initiatives que vous avez tenté de prendre au niveau du Parlement?
Je ne crois pas que c'est nécessaire de... Il y en a tellement que je ne peux pas les remémorer. Il y a plein de dossiers. Pour exemple, il y a le rapport Lutundula qui date des années, qui a mis à nu les contrats léonins et le pillage systématique dont notre pays était victime. Il est là, il y a eu des conclusions, il y a eu des recommandations, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Rien du tout.
Alors, lorsque vous vous rendez compte, vous, parlementaire, que les recommandations que vous formulez à l'endroit, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif ne sont pas prises en compte, vous avez tous les pouvoirs, n'est-ce pas, pour sanctionner le pouvoir exécutif. Pourquoi vous ne le faites pas?
Mais sanctionner, ça veut dire quoi? C'est pas nous qui nommons les ministres. Nous pouvons constater et établir des fautes à l'endroit de tel ou tel ministre, mais il appartient à celui qui doit nommer ces ministres-là d'en tirer les conséquences. Et s'il ne le fait pas, nous faisons quoi?
Le FMI propose, pour solutionner ce problème, propose notamment la diversification de l'économie congolaise. Pourquoi, à votre avis, la RDC n'arrive pas à diversifier son économie quand on sait qu'elle regorge toutes les potentialités à cet effet?
Mais justement, c'est comme je le dis, c'est un problème de gouvernance. Hein, diversifier l'économie, ça procède d'un programme. Ça procède d'un plan. Et notre force ici en RDC, c'est d'être des champions dans la confection des bons textes, mais qui ne sont jamais appliqués. Nous avons des programmes parmi les meilleurs du monde. Nous avons le DCRP, nous avons le programme d'action du gouvernement qui est censé être en application, et chaque année nous avons une loi des finances, donc un budget qui est censé être une tranche annuelle de ce programme-là du gouvernement. Mais je vous dis que quand vous entrez en profondeur, le budget n'a rien à voir avec le programme du gouvernement, et quand bien même vous avez voté le budget, ce qui s'exécute c'est autre chose. Le budget, on le met dans les tiroirs. Donc vous comprenez que c'est en résumé un problème de gouvernance, tout simplement.
Merci, professeur Godefroy Kabengele. Bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, spécialiste en économie internationale. Vous êtes cadre du PPRD, parti de la majorité présidentielle. Le FMI félicite le gouvernement congolais pour les efforts ayant permis cette forte croissance, mais en même temps indique la pauvreté et le chômage qui restent élevés. Comment vous réagissez par rapport à cette évaluation du FMI?
L'évaluation, messieurs les journalistes, du FMI est une très très bonne évaluation. Parce que le FMI félicite le gouvernement congolais. Pourquoi est-ce qu'une institution sérieuse comme le Fonds monétaire international félicite un pays? C'est pas pour rien. C'est que quelque part, il y a eu des efforts qui ont été faits pour aller de l'avant. D'abord, d'où nous venons? C'est ce que mes amis doivent savoir. Nous venons de très loin. Nous venons d'un pays qui avait une croissance négative. On avait une croissance de moins autant. Je parle à un économiste averti qu'aujourd'hui, pour arriver à cette croissance positive, il a fallu beaucoup d'efforts. Que disent les principes économiques en matière de croissance économique? Je suis professeur d'économie du développement dans certaines universités ici, au pays. La croissance économique dans chaque pays du monde est fonction du taux des investissements. Lorsque le taux des investissements augmente, la croissance économique vient. Mais qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est une augmentation généralisée de la production dans tous les secteurs. C'est l'augmentation de la productivité. C'est-à-dire une productivité qui, espérons-le, souhaitons-le, peut amener à l'amélioration du niveau et de la qualité de vie de la population. Donc la croissance en République démocratique du Congo vient de très loin. Elle était négative. Maintenant, elle est positive. Voilà. Positive suite à l'augmentation des investissements dans les secteurs miniers. C'est pourquoi en économie, nous parlons de croissance équilibrée et de croissance déséquilibrée.
Une croissance positive, comme vous le dites, le FMI a même félicité le gouvernement pour cela, mais le même FMI s'étonne du fait que cette croissance n'influe pas sur la vie de la population.
C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, le FMI a raison. Pour tout économiste averti, nous disons que la croissance économique est fonction de l'augmentation du taux des investissements. Ça, c'est une chose. Il y a eu augmentation des investissements dans les secteurs miniers congolais. C'est ce qui a entraîné la croissance positive. Les efforts doivent être faits pour que les effets multiplicateurs de cette croissance dans les secteurs miniers puissent, n'est-ce pas, aller dans d'autres secteurs socio-économiques. C'est pour cela que, au niveau des indicateurs macroéconomiques, n'est-ce pas, nous avons des indicateurs purement économiques en matière d'appréciation du niveau de développement atteint par un pays, et nous avons des critères, n'est-ce pas, sociaux. Ah, par exemple, les secteurs comme les infrastructures, les transports, la santé, l'éducation, etc. Il faut que les bénéfices réalisés dans les secteurs miniers puissent être investis et inciter les autres investisseurs dans d'autres secteurs à y aller avec sans peine. Parce que la réduction de la pauvreté dans un pays n'est pas le fait d'une croissance tout simplement. C'est le fait de plusieurs facteurs, parmi lesquels, n'est-ce pas, la répartition des revenus, parmi lesquels l'augmentation des emplois, parmi lesquels, n'est-ce pas, la gouvernance, parmi lesquels il y a plusieurs facteurs qui concourent à la réduction de la pauvreté. Mais il ne faut pas oublier ici que l'économie congolaise n'est pas une économie particulière. C'est une économie sous-développée comme toutes les économies sous-développées.
Voilà, vous parlez de cette croissance, n'est-ce pas, qui provient essentiellement des secteurs miniers. Oui. Et vous souhaitez que d'autres secteurs puissent être, qu'on puisse aussi investir dans d'autres secteurs, n'est-ce pas, pour créer, pour renforcer cette croissance. Mm-hmm. Le FMI a même recommandé au gouvernement de diversifier, n'est-ce pas, son économie. Pourquoi, à votre avis, le gouvernement n'arrive pas à diversifier son économie alors que les potentialités sont là? Parce que, les experts disent que les secteurs prioritaires d'investissement, c'est notamment l'eau, l'énergie, et nous avons, nous, ces potentialités. Mais pourquoi on n'arrive pas à diversifier cette économie?
Très bien, merci beaucoup. La diversification d'une économie, sur le plan proprement économique, est fonction des politiques économiques. Des politiques sont en train d'être avancées par le gouvernement. On ne peut pas diversifier, n'est-ce pas, une économie en un jour. C'est un processus, parce que le développement lui-même, le développement économique est un processus. Tandis que le sous-développement est un état de nature dans lequel un pays peut se trouver à un moment donné de son histoire. Mais le développement économique est un processus caractérisé par l'augmentation des investissements qui amène à l'amélioration et de la qualité et du niveau de vie de la population.
Et vous pensez que la RDC fait assez pour promouvoir les investissements dans d'autres secteurs?
Les efforts sont là. Je ne dis pas qu'on fait tout. Les efforts sont là. Non seulement on doit diversifier les investissements, mais il faut diversifier aussi la production. Parce que le pays ne peut pas produire que les produits miniers. Et ces produits, le chef de l'État l'avait dit une fois. Il avait dit que nous allons tout faire pour que la production nationale puisse être transformée au pays. Donc les efforts sont là. Parce qu'un pays arrive à devenir émergent lorsque sa production nationale, n'est-ce pas, est transformée en grande partie sur le territoire national en vue de substituer certaines importations par la production nationale. Alors, maintenant, les efforts qui sont là, moi je peux tout simplement dire que le gouvernement doit continuer les efforts et aller dans le sens de booster les secteurs, outre que les secteurs miniers, de booster les secteurs agricoles par exemple. Parce que l'agriculture devient un facteur de développement lorsque elle est mécanisée, elle est modernisée et elle est couplée à l'élevage industriel et à la pêche industrielle.
Alors, vous n'étiez pas encore là quand l'honorable Jean-Marie Bamporiki a dit que l'évaluation du FMI est l'anathème jeté au pouvoir en RDC.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. La République démocratique du Congo est un pays sous-développé comme tous les autres. Mais un pays dans lequel des efforts de développement sont en train d'être déployés. Et que, aujourd'hui, n'est-ce pas, je viens de le dire, le développement est un processus continuel. Cela ne veut pas dire que les pays qui sont développés aujourd'hui continueront à l'être pour toujours. Les pays doivent continuer, les politiques économiques doivent continuer à aller dans le sens de la diversification et de la production et des exportations. Ce qu'il faut, c'est arriver à transformer sur place. Et cela est possible grâce à deux choses. La politique énergétique. Parce que pour que les usines puissent tourner, il faut de l'énergie électrique la moins coûteuse. Et l'énergie la moins coûteuse, c'est l'énergie hydroélectrique. Deuxième chose, nous avons ce potentiel. Parce que je peux même aller plus loin pour dire que dans chaque territoire de la République démocratique du Congo, Dieu a pourvu au moins une rivière.
Merci.
Deuxième chose, il faut l'industrialisation du pays. Il faut aller dans l'industrialisation. Nous ne pouvons pas être producteurs du maïs et importateurs de semoule.
Merci, professeur.
Nous ne pouvons pas être producteurs du café et importateurs de Nescafé. Nous devons y aller avec des petites industries, des moyennes industries, dans le sens de transformer ce que nous produisons sur place en vue de substituer certaines importations. Merci aujourd'hui par la production nationale.
Merci Israël Moutala. Je rappelle que vous êtes journaliste et aussi analyste politique et économique. Comment vous analysez cette évaluation faite par le FMI sur le paradoxe entre la croissance que connaît la RDC et la pauvreté qui caractérise sa population?
Bon, moi je trouvais le rapport du FMI plus ou moins réaliste. Bon, il n'y a rien de nouveau qui a été dit dans le rapport du FMI. Le paradoxe est le même, il persiste, il perdure, mais je constate que au moins la bataille de la stabilité du cadre macroéconomique qui est très importante a été remportée. Et donc le FMI a félicité le gouvernement pour la stabilité du cadre macroéconomique. On ne le dira jamais assez, c'est un acquis important qu'il faut préserver. J'ai toujours dit du cadre macroéconomique, c'est la relève de l'ordre public économique. Donc on ne peut pas transiger sur la stabilité du cadre macroéconomique, car c'est de la stabilité du cadre macroéconomique que dépendent beaucoup d'autres choses, notamment la création de la richesse et ensuite la meilleure façon de la distribuer ou de la partager. Et donc, un autre aspect, c'est la robustesse de cette croissance qui est plus ou moins élevée, l'une des plus fortes en Afrique, si pas au monde, mais une croissance justement qui est fortement dépendante du secteur minier. Là aussi, il n'y a aucune information nouvelle. La structure de notre économique dépend foncièrement du secteur minier. Voilà, essentiellement.
Et qu'évoque la stabilité d'un cadre économique lorsque cette stabilité n'influe pas sur les vécus de la population?
Mais il faut qu'on le dise d'abord que notre richesse, c'est un potentiel. Et donc, pour convertir le potentiel au réel, il faut beaucoup de travail, il faut du temps. Et comme on l'a dit ici, nous sommes d'abord un pays extrêmement pauvre. Ça veut dire que quand je regarde les moyens financiers de l'État, ils n'excèdent pas en propre les 5 milliards de dollars. Si vous prenez les 5 milliards de dollars de recettes en propre, et là c'est une cible qui n'a pas été atteinte l'année passée ni cette année, et donc vous voyez déjà que les moyens de l'État sont extrêmement limités. Quand vous faites 5 milliards de dollars de budget public, vous divisez ça par 70 millions de Congolais, nous avons chacun 71 dollars à peu près par an pour vivre. Et donc, on ne peut pas vivre avec cette somme-là. Donc, il faut continuer à créer de la richesse, continuer à amplifier la croissance pour qu'elle soit plus robuste, pour qu'elle soit plus soutenue, pour qu'elle soit plus forte. Donc, il faut amplifier le mouvement positif de la croissance économique qui a été enclenché en 2001. Et donc, parce que le taux de croissance aujourd'hui, il est de 9% à peu près, mais il faut toujours le contrebalancer avec le taux démographique, parce qu'on ne fait pas de la croissance pour la croissance. Donc, la richesse croît dans nos pauvretés, on perd plus de richesse, mais on en crée. Mais tout en créant cette richesse, il y a une population qui suit. Son taux est de 3 ou à 4%. Et donc, si vous faites 9% de taux de croissance, moins 4% à peu près de moins de taux démographique, vous allez voir que la création de richesse se situe autour de 5%. Or, nous avons de retards colossaux. Il faut absolument que nous ayons un taux de croissance à deux chiffres. Et là, il faut encore beaucoup de travail et beaucoup de volonté.
Certains experts estiment que les investissements privés sont le remède, n'est-ce pas, à ces problèmes. Étant donné, Israël Moutala, étant donné que les investisseurs, avant de s'engager, commencent par évaluer les risques, et c'est notamment l'instabilité politique, la justice, l'indépendance de la magistrature, l'adhésion à l'OADA. Or, quand on évoque la RDC, on pense à tous ces facteurs-là, les facteurs qui découragent les investisseurs à venir investir, n'est-ce pas, dans notre pays. Que faut-il faire? Parce que les investisseurs commencent d'abord par évaluer les risques.
Tout à fait. Ça veut dire que quand un investisseur, le risque est plus grand dans un pays, il va chercher le coût de l'argent, le coût des capitaux sera plus élevé. Et donc, pour faire de la croissance, il faut attirer les investissements. Donc, on appelle ça les aides, les IDE. Donc, ces investissements directs étrangers, c'est la clé, justement, de la croissance. Donc, aujourd'hui, on pallie devant la Chine, devant sa croissance. Mais il faut se rappeler qu'à l'origine, la Chine a été un aimant à capitaux. Ça veut dire qu'il avait tout fait pour attirer les capitaux pour transformer son économie. Et donc, même sur ce chemin-là, on a quand même, on a progressé. Notre système judiciaire est ce qu'il est, on le déplore. Il a été plus ou moins contourné par l'OADA, parce que quand on n'arrive pas à se faire, à rentrer dans ce droit par rapport à notre système judiciaire, on peut recourir à l'OADA. Donc l'OADA a permis justement à sécuriser et à donner plus de confiance aux investisseurs étrangers. Et donc, l'amélioration du climat des affaires, c'est la clé. Il faudrait que des sous qui sont logés aux quatre coins du monde il faudrait que ces sous là-bas se disent que la meilleure destination pour notre rentabilité, c'est la RDC. Et donc, parce que nous sommes en compétition. Donc, à partir du fait que nous avons des potentialités économiques énormes, il faudrait absolument que le cadre d'acquérir les capitaux soit le plus propice possible. Et avec l'OADA notamment, et la Convention de New York sur les investissements, bref, il y a d'autres des mécanismes internationaux, ça permet d'améliorer le climat d'affaires.
Le noble Jean-Marie Bamporiki a dit ici, il a affirmé que l'évaluation du FMI reflète l'échec de la gouvernance.
Le problème, c'est que aujourd'hui, pour être sincère, et nous sommes trop pauvres. Nous sommes trop pauvres. Il y a trop peu de richesses. Ça veut dire que on a mis du temps. On a passé toute une décennie, je crois que dans les décennies décennies 90, on a détruit de la richesse. L'investissement. La RDC n'était pas la destination pour les investissements. Et donc aujourd'hui, il faut que ça prendra du temps pour créer suffisamment de richesses et pour que cette richesse soit distribuée. Et les gens veulent voir le fruit de la croissance, la distribution de la croissance. Mais écoutez, quand par exemple une société minière TFM ou je sais pas une autre quitte 2 milliards et demi ou 3 milliards investis, et quand elle investit, elle recrute de la main d'œuvre. Cette main d'œuvre des Congolais, il y a chacun avec ses compétences a un emploi, a des revenus. Et donc c'est une façon justement de réduire la pauvreté. Et donc pour le gouvernement, quand on dit que le gouvernement ne fait pas suffisamment pour faire reculer la pauvreté, et donc c'est pas que le gouvernement va se mettre à distribuer de l'argent. C'est des programmes en termes d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures scolaires, en termes de routes, de dessertes agricoles, bref. Mais pour ça, il faut que l'État aille les moyens de sa politique. Et donc, sur cette question, notre pauvreté actuelle ne permet pas à l'État d'être plus ambitieux en termes d'infrastructures, en termes de réduction de pauvreté, d'où il faut explorer la piste d'un endettement massif pour essayer de booster et réduire de manière significative la pauvreté, parce que on ne peut pas la combattre avec tout simplement des IDE et sans un endettement conséquent.
Merci. Honorable Jean-Marie Bamporiki, il y a une question qui vous est adressée. On l'écoute.
Mwamba Mukongo Joseph Awamaza dans le Maniema. Nous sommes un peuple souverain, autonome et responsable. Il n'appartient pas au Fonds monétaire international de crier oh, notre pauvreté. Ils nous doivent une dose de respect. Mais quelles sont les données démographiques et économiques qui soient paradoxales et qui conduisent à cette déclaration? S'ils ont une quelconque responsabilité sur nous, qu'est-ce qu'ils font pour nous sortir de la pauvreté? Moi, je considère cette déclaration comme de l'ingérence qui caractérise ces derniers jours les organisations internationales à l'endroit de notre gouvernement. Je dirais qu'ils sont mécontents de la stabilité économique actuelle dans notre pays.
Honorable Jean-Marie Bamporiki.
Oui, ce n'est pas au Fonds monétaire de nous sortir de la pauvreté. Ça, c'est le travail du gouvernement, c'est le travail du pouvoir économique. L'objectif principal de tout pouvoir, c'est la conquête du bien-être de sa population. Et de manière classique, c'est par la ponction exercée sur les richesses réalisées sur le territoire national et la répartition de ces richesses-là à travers les circuits économiques et sociaux pour réduire la pauvreté. Alors, le Fonds monétaire fait juste un constat en tant que technicien. Qu'il y a des richesses qui se produisent sur le territoire national. Parce que quand même on dit que l'État est pauvre qu'on sort, moi je dis non. Parce qu'on nous dit qu'il y a des richesses qui se réalisent sur le territoire où se trouve cet État-là. Alors comment se fait-il qu'il y en a qui deviennent des riches, mais il y a que lui, l'État, qui ne sait pas devenir riche pour mieux s'occuper de sa population, c'est que c'est de l'incompétence ou de l'irresponsabilité. Donc, voilà la problématique. Les richesses sont là, mais la pauvreté est là aussi. Alors, quelle est la place de la gouvernance?
Oui, le professeur Kabengele Godefroy a reconnu aussi cela, mais il estime que nous venons de très loin. Nous avons commencé par une croissance négative pour aboutir à cette croissance positive. Et il rappelle ici que la croissance économique, est fonction de l'augmentation du taux des investissements.
Oui, il faut que nous quittions les termes savants. Au lieu de parler croissance, parlons tout simplement de richesse. Nous sommes en train d'examiner une situation actuelle. Un constat fait par un organisme technique dont on ne peut pas douter de la probité et consort, qui dit que chez vous, il y a eu de la richesse, n'est-ce pas? C'est même une persistance de la richesse à travers les années. Mais il y a eu aussi persistance de la pauvreté. Voilà le paradoxe. C'est ça. Normalement, lorsqu'il y a un pouvoir normal, il doit s'organiser pour capter sa part dans les richesses qui sont réalisées sur son territoire et l'orienter vers la réduction de la pauvreté. C'est ça qui ne se fait pas.
Alors, il y a des experts qui reconnaissent qu'il y a des efforts qui sont fournis de la part du gouvernement, n'est-ce pas, pour arriver à une bonne répartition de cette richesse qui est créée. Vous ne pensez pas que si on maintient cet élan, on peut arriver à solutionner ce problème?
C'est quoi ces efforts-là? Moi, je ne les connais pas. Parce que...
Notamment la stabilité du cadre macroéconomique.
Parlons encore, on ne mange pas la stabilité du cadre macroéconomique. Parlons encore d'un terme simple. Nous sommes un pays où nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous sommes un pays où nous n'avons pas de marché intérieur parce que principalement nous manquons d'infrastructures de communication, les routes, par exemple. Combien de nos provinces sont interreliées entre elles-mêmes? Quand vous prenez les provinces de l'Est, quand vous y êtes, mais vous êtes dans une économie de l'Est qui n'a rien à voir avec l'économie d'ici à Kinshasa. Quand vous êtes au Katanga, vous êtes dans une économie du Sud qui n'a rien à voir avec l'économie qu'il y a par exemple, au Kassaïdo. Vous voyez, nous sommes un pays avec des petits îlots d'économies qui s'arriment à d'autres économies, mais nous n'avons pas d'économie nationale à proprement parler. Et ça, c'est la gouvernance. C'est ça.
Professeur Kabengele, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient du site Kivu, de Kavumu.
John Kishibangi Ditoroa, depuis Kavumu, au site Kivu. Je pense que cette croissance devrait se traduire en termes concrets et que celle-ci soit concrète dans la vie sociale de tous les Congolais en général, étant une partie de la population congolaise. Quelle croissance économique le FMI parle-t-il lorsque le taux de la pauvreté frappe plus de 80% du peuple congolais et plus de 90% de la population congolaise sont des chômeurs avec un revenu moyen journalier de 220 francs. Je pense qu'actuellement la RDC se classe avant-dernière de l'Afrique avant la Somalie, malgré cette croissance de 9% devenue l'hymne national de toutes les autorités congolaises et malgré la stabilisation du cadre macroéconomique. Parler de la croissance économique, c'est vérifier le niveau du PIB, le taux d'inflation, la balance commerciale et le niveau d'emploi. Si le FMI a confirmé ce taux de croissance économique, je crois qu'il devrait se référer au social des Congolais et pas aux membres du gouvernement car la situation socio-économique ne cesse de s'empirer du jour le jour.
Oui, professeur Kabengele.
Merci. Tout pays, quel que soit son niveau de développement, aspire à une chose ou doit aspirer à une chose. L'amélioration du niveau et de la qualité de vie de sa population. Ainsi, lorsqu'on parle de croissance économique, on peut atteindre un niveau de croissance, mais ne pas être pays développé. Mais il n'y a pas de développement sans croissance économique. Ce n'est pas un terme savant, mais c'est ça le principe économique. Pour arriver au développement économique dans lequel on retrouve l'amélioration du niveau et de la qualité de vie de la population, il faut passer par la croissance économique. Mais toute croissance économique n'amène pas au développement économique. Pour qu'il y ait développement économique, n'est-ce pas, il faut que la croissance économique s'accompagne de l'amélioration du niveau et de la qualité de vie de la population. Là, notre auditeur a raison de dire que la croissance économique doit s'accompagner, n'est-ce pas, de la transformation du niveau de vie de la population qui quitte un niveau pour un autre. Mais si nous suivons bien les statistiques des organismes internationaux qui s'occupent du développement humain, du développement économique, les indices sont tels que le taux de pauvreté de la République démocratique du Congo, qui était de 90%, permettez-moi le terme belge, ce taux a été réduit. On est parti de 90 à 80, à peu près pour cent, de taux de pauvreté.
Et quels sont les éléments sur lesquels vous étayez ces chiffres?
Ce sont les chiffres donnés
par... Les éléments concrets.
Les éléments concrets, lorsqu'on évalue le développement économique ou bien le niveau de vie d'une population, il y a des indicateurs économiques et des indicateurs sociaux. Par exemple, l'espérance de vie à la naissance. Quand on est au Congo, on espère vivre combien d'années? Et puis les taux de scolarisation. Combien d'enfants sont dans les écoles? Combien d'enfants ne fréquentent pas les écoles? Combien de calories un Congolais consomme par jour? Il vit avec combien de dollars par jour? Cela sous-entend que la réduction de la pauvreté, c'est tout un processus. Et cette réduction est dans les objectifs du millénaire pour le développement. C'est en 2015 ici qu'on devait, dans tous les pays sous-développés, réduire de moitié le niveau de pauvreté. Mais je ne pense pas qu'il y ait un pays, un seul pays du tiers-monde, un seul pays sous-développé qui a réussi à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement.
Professeur Kabengele, que faut-il pour que cette croissance soit répartie de façon équitable, de manière à profiter à toute la collectivité?
Très bien. Quatre piliers. Le premier pilier, il faut que le gouvernement de la République puisse attirer les investissements, tant directs étrangers que nationaux. Pour ce faire, le climat des affaires doit être amélioré. Ça, c'est le premier pilier. Il faut que les Congolais investissent dans leur pays. Et pour cela, il faut arranger le cadre. Le cadre macroéconomique est déjà stabilisé. Il faut maintenant réduire les tracasseries, n'est-ce pas,
dans améliorer le climat des affaires.
Par-ci, par-là. Et puis, il faut prendre des mesures courageuses. Parce qu'aujourd'hui, la tache noire dans le travail du gouvernement, c'est la SNEL, c'est la Régie des Eaux. Ça, tout le monde le sait. On a bien travaillé, mais l'eau est difficile, n'arrive pas partout. Le courant est un problème. Et il faut prendre des mesures courageuses. Comme ces sociétés sont déjà des sociétés commerciales, ont été transformées en sociétés commerciales, il faut accepter qu'il y ait des concurrents, de concurrents à côté des Régies des Eaux. Il faut accepter qu'il y ait des concurrents à côté des SNEL. Parce que ce sont des sociétés commerciales qui doivent évoluer dans une certaine concurrence. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, il faut, parce que pourquoi je parle de SNEL, c'est parce que pour que l'industrialisation soit effective, il faut qu'il y ait du courant. Et nous savons...
Le troisième pilier,
il faut les routes et les autres moyens de communication.
Le quatrième pilier,
il faut refaire l'homme congolais. Il faut une nouvelle citoyenneté. Merci. Il faut changer la mentalité du Congolais pour que tout le monde comprenne que le développement, c'est l'affaire de tout le monde. J'ai l'honorable député ici. Lui aussi, quand il parle de gouvernance, mais la gouvernance, c'est y compris lui. La gouvernance, ce n'est pas seulement le gouvernement.
Merci, professeur.
Même le Parlement.
Israël Moutala, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
Maxime Kabira, j'appelle depuis Lubumbashi au Katanga. Je ne comprends pas sur base de quel indicateur le FMI a révélé que la RDC excelle en matière de croissance. Or, la croissance se mesure sur base de certains indicateurs. Ah, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de consolidation du climat des affaires. Un pays où l'environnement ne facilite pas la création des entreprises pour résorber le chômage juvénile. Mais au contraire, notre environnement est contraignant où la bureaucratie est le maître mot. Et où l'instabilité politique et économique est quasiment permanente. B. Nous sommes dans un pays où la population vit avec moins de 1 dollar américain par jour. C. Nous sommes un pays où il n'y a pas de classe moyenne et où la population n'a pas accès aux microfinances. Au regard de tous ces faits, allez-y comprendre. On dit que la RDC a excellé en matière de croissance. À qui profite donc elle? Moi, je pense donc que le paradoxe, c'est cette révélation du FMI. Et quant au gouvernement, il doit beaucoup travailler et faire fi à des éloges dénués de tout fondement.
Bon, je crois que Maxime est un peu radical dans son point de vue. Faut reconnaître, c'est difficile, faut reconnaître quand même qu'il y a eu quelques progrès. Et donc, objectivité oblige. Aujourd'hui à Kinshasa, j'ai pu l'expérimenter, j'ai créé une entreprise en maximum 72 heures, parce que d'ailleurs je manquais de documents, je pouvais le faire en 48 heures. Et donc le taux était facilement, donc au guichet unique, donc j'ai pu me rendre compte moi-même, donc j'ai pu créer une entreprise en 72 heures. Donc il y a de progrès, on peut facilement créer une entreprise aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années. Donc reconnaissons les faits. Et donc la croissance, c'est ça le problème de la croissance. Et elle est là, comme on l'a dit, vous avez produit 10 mangues aujourd'hui, vous en produisez 11 mangues, il y a croissance d'une mangue supplémentaire. Vous en avez produit 11 mangues, l'année d'après vous en produisez 13, il y a la croissance.
C'est possible pour que ces mangues, ces 10 mangues soient réparties de façon équitable à toute la population.
Mais d'accord, quand il y a le manguier qui est là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour que ça pousse? C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, vous voulez tous participer à la croissance. Est-ce que vous voulez les fruits de la croissance? Il faut d'abord participer justement à cette croissance. Le manguier est là. Est-ce que vous avez sémé? Est-ce que vous avez arrosé? Est-ce que vous avez cueilli? Donc il faudrait justement que la population soit amenée justement à participer à la croissance pour en retirer le fruit.
Et vous pensez donc, qu'elle ne participe pas?
Non, je n'ai pas dit ça. Il appartient maintenant à l'État d'organiser sa population pour qu'elle soit à même d'être productive. Et ça passe par quoi? Ça passe par un meilleur enseignement. Donc, plus vous êtes instruit, plus vous êtes apte à participer à la croissance.
Donc, investir dans l'éducation.
Dans l'éducation. Et donc, je pense que la réhabilitation des écoles est quand même un volet important à souligner ici. Le programme de 1000 écoles, il faut l'amplifier, il faut aller plus pour que tous les enfants congolais aillent à l'école, aient un bagage pour être utiles à la société. Il faut absolument que les Congolais aient les moyens de se faire soigner, de se faire dans de bonnes conditions. Donc, investir dans l'homme, c'est important. Mais comme vous voyez, là, c'est du social. Mais pour faire du social, il faut d'abord que l'économique marche. Donc, l'économique prime sur le social. Ce sont les ressources que vous dégager par la création de richesses, que vous allez investir dans le social et qu'une fois le social, il va aussi retourner l'ascenseur à l'économie. Ça se tient, mais il faut trouver un juste équilibre. Et donc, ici, sur la question de la croissance, je m'aurais dit que l'État, c'est à peu près une structure qui est animée, qui emploie 1 million à peu près de personnes. Donc, c'est 1 million de personnes, militaires, civils et policiers, qui ont une rémunération. Donc, ils peuvent dire, par exemple, pour nous, la croissance, c'est quoi? Notre salaire a été stabilisé, il a augmenté. Mais pour les autres Congolais qui ne sont pas, qui ne travaillent pas pour l'État, c'est quoi? C'est des meilleures routes, c'est de l'énergie, c'est de la sécurité.
Et en conclusion?
C'est justement la croissance. Donc, pour moi, en conclusion, c'est que la problématique justement de la pauvreté, elle est là, elle est sérieuse. Mais on ne peut pas s'imaginer un instant qu'avec le levier du budget national, on peut réduire la pauvreté. C'est faux. Pour réduire la pauvreté, il faut absolument que notre pays soit un aimant à capitaux et que nous pensions justement à un endettement massif pour investir dans les infrastructures, notamment énergétiques et routières, qui vont créer les conditions d'une croissance plus inclusive.
Honorable Jean-Marie Mapovici, que faut-il pour que cette croissance soit répartie équitablement? Vous avez suivi le professeur Kabengele, qui pense qu'il faut mettre en place des politiques pour attirer les investissements, et Israël Moutala, qui estime qu'il faut investir dans beaucoup de secteurs, notamment l'éducation.
Oui, il faut tout simplement que l'État soit sérieux, qu'il puisse appliquer les programmes qu'il se dote. Je fais un peu...
C'est votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de
l'émission. Oui, parce que vous dites qu'il y a un problème de budget qu'on soit. Non, il n'y a pas de problème de budget ici. Je vous ai parlé de la commission Rutundula. Je vais encore vous rappeler une émission qui est passée ici à Okapi, où un collègue député, qui existe au Moshizi, pour ne pas le citer, a révélé le fait qu'il y avait fuite de 3 milliards de dollars dans le secteur des douanes. Et qu'il y avait même une commission de la justice, PGR et consorts.
Et donc nous retenons que l'État doit apprendre à être sérieux, c'est ça?
Voilà.
Oui, professeur Kabengele, votre conclusion?
Ma conclusion est très simple. Le développement, c'est l'affaire de tout le monde, piloté par le gouvernement. Chacun, là où il est, il doit travailler. Il y a des questions en économie auxquelles personne ne tente de donner des réponses. Qui est le premier producteur du maïs au Congo? Qui est le premier producteur du manioc au Congo?
Merci.
Donc, qu'est-ce qu'il faut pour diversifier la croissance? Il faut moderniser l'agriculture.
Merci.
Il faut industrialiser le pays.
Nous sommes à la fin de l'émission. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain Matundu qui était à la technique, Alain Irung, Kéline Koutéberi, Franklin Loukiaka qui m'ont aidé à préparer cette émission. Sous la supervision de Pelle Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite au programme sur Radio Capi.